58. Elle avait 4 ans. C'est bien visible, une petite fille dans une robe qui montre que c'était pas une journée normale. Peut-être c'était un anniversaire où la robe est extrêmement propre et sa coiffure est belle et elle rigole. On dirait qu'elle raconte quelque chose à quelqu'un, probablement ses parents.
Let's start.
Grande traversée. Angela Merkel, l'inattendu. Par Ludovic Piétenu et Thomas Duterre. Premier épisode, derrière le mur.
President Beckau, fellows of the corporation.
Discours aux diplômés de l'université américaine de Harvard, 30 mai 2019, Angela Merkel.
Fiers parents et diplômés, aujourd'hui est un jour de joie. C'est votre jour. Toutes mes félicitations. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous mes propres expériences. L'écrivain allemand Hermann Hesse a eu des mots merveilleux pour décrire une telle situation. J'aimerais le citer et poursuivre dans ma langue maternelle.
Hermann Hesse schrieb: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Il a écrit: Dans tous les commencements réside une force magique qui nous protège et nous aide à vivre.
Est originaire de Prusse, assez représentatif de ce qu'est cet espace du milieu de l'Europe, puisque les parents de son père étaient polonais.
Hélène Millard de la Croix
avait grandi à Poznan,
historienne,
était devenue allemand, avait d'ailleurs germanisé leur nom, Kastner, et le père d'Angela Merkel était arrivé à l'ouest, où il a fait ses études à Heidelberg, un peu par hasard. Comme jeune pasteur, il est devenu vicaire à Hambourg, et les pasteurs obéissent, ils vont là où on les envoie. À Hambourg, il a rencontré sa femme, ils se sont mariés, ils ont conçu ce premier bébé, Angela Merkel, et en juillet 1954, il est parti dans l'est de l'Allemagne, dans le nord de l'Allemagne de l'Est, dans le Brandebourg, c'est-à-dire au nord de Berlin, dans la région de Templin, une région très jolie, très particulière, des paysages avec des lacs, des forêts de hêtres. Elle raconte qu'elle allait à pied à l'école, qu'elle aime beaucoup cette région du nord qu'on appelle l'Uckermark.
Ralph Bollmann, biographe.
Außerhalb von Raum und Zeit, würde ich sagen. Sie war außerhalb von Templin. Es war also immer ein längerer Weg.
Alors l'endroit où elle a grandi, ça s'appelait le Waldhof, la cour dans la forêt, un peu hors du temps et de l'espace, qui était légèrement en dehors de la ville de Templin, un peu à l'écart. Il fallait sortir de la ville et traverser un parc pour y aller.
Wo dieses Seminar war.
Sur le terrain, il y avait le bâtiment où vivait la famille d'Angela Merkel et où il y avait le séminaire de son père. Mais la plupart du terrain était occupé par l'institution pour handicapés et on les appelait parfois les dingues. Il y avait certains parents qui ne voulaient pas que leurs enfants traînent par là-bas.
C'était pas un hôpital, mais c'était la vie normale pour elle d'être entourée des handicapés.
Handicapés et... moteurs et mentaux, physiques.
Exactement.
Les deux.
Oui, les deux.
Jacqueline Boysen, biographe.
Cette institution qui était dirigée par son père, c'était une institution de l'Église, payée par l'Église protestante. Donc la situation pour les handicapés chez eux était un peu mieux, un peu plus adéquate qu'ailleurs dans la société en Erdia. Pour elle, c'était la vie normale. Par contre, pour ses amis à l'école, eux, ils hésitaient un peu de venir chez elle parce qu'eux, ils n'avaient pas l'habitude. Donc, elle n'était pas comme les autres.
Als Pfarrer der diakonische Einrichtung der evangelischen Kirche in der DDR aber kannte,
Rainer Rippelmann,
kann ich mir sehr gut vorstellen, wie
Pastor.
Das Kind und die Jugendliche Angela Merkel in Templin aufgewachsen ist.
En tant que prêtre, je peux me représenter quelle a été sa jeunesse dans une communauté diaconique, ça veut dire qu'il s'occupait des handicapés.
In einem Elternhaus, das
Donc le père d'Angela Merkel était dans cet environnement et il assurait aussi la formation des jeunes théologiens pour leur dernier examen.
Ihr ist der Lebensversuch ihrer beiden Eltern ernsthaft vermittelt worden, aber auch durch das alltägliche Leben in dieser diakonischen Einrichtung.
Elle a grandi selon les principes de ses parents et les principes religieux et de son entourage, c'est-à-dire va ton chemin avec Jésus, dis aux autres qu'ils ont la même valeur que toi et sois conscient qu'il y a des gens qu'il faut aider parce qu'ils n'ont pas la capacité de vivre par eux-mêmes.
Alors, je crois que l'atmosphère au Waldhof était un peu spéciale.
Jacqueline Boysen.
Tout le temps venaient des pasteurs de toutes sortes, de toute l'RDA, pour apprendre des choses, pour discuter. Je crois que ça a marqué Angela Merkel beaucoup, parce qu'elle a vu que ces gens-là apprenaient tout le temps.
Elle y a croisé, peut-on imaginer, des personnes comme Albrecht Schönherr, qui a été un proche de son père et qui est devenu évêque de Berlin-Brandenburg, qui a présidé la Fédération des Églises protestantes en RDA, donc un personnage vraiment central du protestantisme est-allemand.
Eva Guigaud-Patzelt, pasteur et historienne.
Et en même temps, on dit de ce séminaire, de ce lieu de formation à Templin, qu'il y avait aussi des intervenants ouest-allemands, qu'il y avait aussi de la littérature qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ça a dû être un endroit très intéressant.
Elle était animée d'apprendre les choses, de comprendre le monde, de poser des questions, de lire beaucoup. Et en plus, les pasteurs aussi pouvaient recevoir la littérature de l'Ouest. Et toute cette littérature était là, chez eux. Et ce qui est très marquant aussi pour ces familles des pasteurs protestants en RDA, c'est une sorte de réseau d'ancienne bourgeoisie très marquée par la culture allemande. C'est-à-dire, il y avait non seulement la littérature interdite en RDA venant de l'Ouest, mais aussi les livres des grands littéraires allemands.
Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik.
La radio, bon, vous pouvez écouter peut-être quelques émissions venant de l'Ouest, mais normalement la radio de l'Est, c'était la propagande, donc la radio était éteinte. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la musique, en chant. Angela Merkel connaît par cœur beaucoup de chorales de Bach. C'était normal dans ce contexte.
Dans les églises protestantes en Allemagne, il y a des chants qui sont incontournables. Il y a des cantiques que tout le monde connaît, qu'on chante, qu'on rechante, et qui se transmettent vraiment de génération en génération.
Eva Gigopatzelt.
Un chant que tous les Allemands protestants ont déjà entendu, c'est un chant sur l'été. Geh aus mein Herz und suche Freude. Sors mon cœur et recherche la joie dans ce beau temps d'été. Et donc c'est le poète Paul Gerhardt qui s'émerveille à travers 7 ou 9 strophes de la beauté de la nature dans laquelle il voit la grandeur de Dieu.
Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerszeit. Na, 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 na. Sieh an der schönen Gärten zier und siehe, wie sie dir und mir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben.
Die Welt war geteilt in Ost und West.
Le monde était divisé entre l'Est et l'Ouest.
Es war die Zeit des Kalten Krieges.
C'était le temps de la guerre froide.
Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in der DDR.
J'ai grandi en Allemagne de l'Est, en RDA.
Dem damals unfreien Teil meines Heimatlandes, in einer Diktatur.
Dans cette partie de mon pays qui à l'époque n'était pas libre, c'était une dictature.
Menschen wurden unterdrückt und überwacht.
Les gens étaient opprimés et surveillés par l'État.
Politische Gegner wurden verfolgt.
Les dissidents politiques étaient persécutés.
Lorsque Horst Kastner décide de passer à l'Est avec sa femme et sa fille Angela, il le fait dans un contexte où la RDA existe depuis moins d'une dizaine d'années. L'édification du socialisme, elle se fait dans un climat de violence arbitraire et de terreur politique sur le modèle de l'Union soviétique stalinienne de la fin des années 20 et du début des années 30.
Emmanuel Droit, historien.
Une période de violence, de stigmatisation, de campagne anti-religieuse tournée contre l'Église protestante qui est considérée comme une institution ennemie dont il faut éliminer l'influence jugée néfaste auprès de la jeunesse. Et dans ce contexte, vous avez à peu près 2,5 millions d'Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest jusqu'en 1961. Donc quand on est à la fin des années 50, on est dans un mouvement où la RDA se vide de son sang. Et dans l'autre sens, et c'est là que la famille Kastner intervient, vous avez à peu près 180 000 Allemands de l'Ouest qui font le choix de participer à l'édification de ce socialisme dans un climat dictatorial très violent.
Ils n'étaient pas les seuls À l'époque qui prenait cette décision, il y avait quand même quelques étudiants de théologie ou les jeunes pasteurs qui sont retournés pour justement aider
Jacqueline Boyce.
Les communautés protestantes en RDA, parce qu'on savait que l'État luttait contre les églises. Ils n'étaient pas les seuls, mais quand même, si on s'imagine, qu'est-ce que ça veut dire pour une famille? La maman n'avait plus de contact avec sa sœur. Angela Merkel avait des cousins et cousines à Hambourg. Elle pouvait pas y aller. Bien sûr, quand ils ont pris la décision d'aller en RDA en 1954, ils pouvaient pas savoir qu'il y aura le mur.
Am 13. August 1961 erfuhr der deutsche Imperialismus, hier ist kein Durchkommen mehr. Hier sind die Grenzen seiner Macht. Von hier geht seine endgültige Niederlage.
Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouvaient l'asphalte.
Construction du mur de Berlin, 13 août 1961.
Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Rue barrée, pont barré, métro arrêté.
Das sozialistische Vaterland. Das Leben und die Zukunft unserer Kinder.
L'Allemagne de l'Est se cadenassait.
Für die Mutter war es vielleicht auch tatsächlich auch noch mal schlimmer, dass die Mauer gebaut wurde.
Après 1961 et l'érection du mur, ça a constitué une étape supplémentaire, notamment pour la mère d'Angela Merkel, puisqu'avant il y avait toujours la possibilité de se dire que si les choses s'envenimaient, on pourrait retourner à l'ouest en passant par Berlin. Et après 1961, cette opportunité n'existait plus. En 1961, ça correspond aux 7 ans d'Angela Merkel et à ses premiers souvenirs politiques, c'est-à-dire les discussions sur le mur auquel elle a pu assister chez elle.
Die Regierung der DDR hatte Angst, dass das Volk weglaufen würde in die Freiheit.
Le gouvernement de la République démocratique allemande craignait que les gens ne fuient vers la liberté.
Deshalb hat sie die Berliner Mauer gebaut. Sie war aus Beton und Stahl.
C'est pourquoi il a construit le mur de Berlin, un mur de béton et d'acier.
Wer bei dem Versuch entdeckt wurde, sie überwinden zu wollen, wurde verhaftet oder erschossen.
Toute personne surprise en train d'essayer de le franchir était arrêtée ou abattue.
Diese Mauer mitten durch Berlin teilte ein Volk und sie teilte Familien. Auch meine Familie war geteilt.
Ce mur, qui coupait Berlin en deux, a divisé un peuple et des familles. Ma famille aussi a été divisée.
Son père était une personnalité très atypique.
Marion van Rettergem, biographe.
Et il était venu s'établir à l'Est. Pourquoi ? Par conviction idéologique, par croyance dans le fait que l'Allemagne socialiste était une promesse d'avenir radieux. Et donc il y avait une véritable adhésion idéologique à ce régime.
Il a quand même été dans des cercles politique clairement identifié.
Eva Guigaud-Patzelt.
Il a notamment été dans les comités directeurs du cercle de Weißensee, qui a été fondé dans les années 50 et qui était un des nombreux groupuscules qui cherchaient à soutenir l'État est-allemand et à réconcilier leur foi personnelle avec un soutien au socialisme.
Il était convaincu qu'on peut trouver un accord entre Jésus et Marx.
Das heißt aber nicht,
Ralf Böllmann,
dass er sozusagen in allem konform gegangen wäre. Er hat sich zum Beispiel immer geweigert, mit der Stasi, mit dem Geheimdienst zu kooperieren, und hat auch seiner Tochter geraten, wenn sie da angesprochen wird.
Il coopérait avec le parti, mais il s'est toujours refusé à travailler avec la Stasi, donc les services de sécurité du parti. Et il a déconseillé d'ailleurs à sa fille de le faire en lui disant qu'il fallait qu'elle dise qu'elle ne tiendrait pas la pression, qu'elle pourrait pas garder les informations.
Il y a eu beaucoup d'histoires sur son père. On a dit que c'était le pasteur rouge, donc il était collabo.
Hélène Millard Delacroix.
On a raconté qu'il collaborait avec la Stasi. Alors en fait, quand on va voir dans le dossier de la Stasi du père, il a été approché, comme toujours, puisque la Stasi approchait les gens qui avaient une capacité d'influence, et il a fait comprendre qu'il référerait de toute façon toutes ses conversations à sa hiérarchie. Et Angela Merkel a dit, vous savez, moi je pourrais pas tenir ma langue parce qu'il faudrait absolument que je parle à mes amis, qui était une façon de décevoir la Stasi, parce qu'on se disait, c'est pas quelqu'un de sûr. C'est quelqu'un qui va bavarder.
Beamter, rufen Sie mir Wiesler.
Hauptmann Wiesler hat das Objekt bereits verlassen, Genosse Oberstleutnant.
Ach so. Aha. Ja gut, ja, Sie können wegtreten.
Celle qui va payer le prix le plus lourd dans les conséquences que ce passage à l'Est va impliquer, c'est certainement l'épouse de Horst Kastner, donc la mère d'Angela Merkel, qui est une enseignante et qui ne va pas pouvoir enseigner dans les écoles primaires ou secondaires de RDA.
Dass eine Pfarrersfrau Lehrerin werden konnte in der DDR, das war praktisch ausgeschlossen.
En tant que femme de pasteur, elle ne pouvait pas être professeure d'anglais et de latin. Bien sûr, l'anglais était quand même enseigné, le latin en RDA à peine, considéré comme bourgeois et décadent. Mais elle ne pouvait de toute façon, en tant que femme de pasteur, pas exercer sa profession. La conséquence, c'est qu'elle avait du temps pour s'occuper de ses enfants, auquel elle a vraiment transmis la valeur d'indépendance. Et elle a aussi eu l'occasion de leur enseigner l'anglais.
Elle a poussé ses trois enfants, Angela et le frère et la sœur, Markus et Irene, à être toujours les meilleurs à l'école.
De par sa formation intellectuelle, elle a certainement incarné une autorité éducative importante auprès d'Angela Merkel. Elle a certainement été aussi une mère qui a à la fois appris à sa fille à respecter un certain nombre de règles du jeu, c'est-à-dire à ne pas tomber dans des logiques transgressives de provocation à l'école. Et en même temps, de par la liberté intellectuelle qui existait au sein de cette famille, la mère a pu être porteuse d'un discours alternatif, qui peut être critique par rapport au régime, qui se distingue en fait du discours officiel qu'Angela a pu entendre à l'école.
Emmanuel Droit.
La femme, elle avait une double journée en RDA, c'est-à-dire que certes, elle s'émancipait par le travail, mais les tâches ménagères relevaient toujours du travail des femmes. Et de ce point de vue-là, Herline Kastner, elle a assuré ses tâches ménagères. Elle a certainement développé des stratégies de débrouillardise pour obtenir un certain nombre de produits alimentaires. Elle a géré l'économie de pénurie dans ses conséquences les plus pratiques. De ce point de vue-là, elle se distinguait pas des autres femmes allemandes.
Beide Klassen. Steh ich dann. Wir beginnen die Stunde mit einem Kräftchen. Sport. Rührt euch.
Die Mädchen der Klasse 7B stillgestanden.
Angela Merkel, comme tous les enfants de RDA, entre à l'école à l'âge de 6 ans. On est donc en 1960. Angela Merkel, elle grandit, elle est scolarisée dans des classes mixtes où les garçons et les filles apprennent ensemble. Elle va dans cette école de Templin rester pendant 10 ans avec les mêmes camarades de 6 à 16 ans.
Dans les écoles de l'État, évidemment, c'était une position assez compliquée pour elle parce que son père était prêtre.
Et Jacqueline Boyse.
Dans la société socialiste, en RDA, ça c'était très mal regardé. Sa maman disait, il faut faire attention. Vous allez avoir des problèmes à l'école, donc il faut être très fleissig, il faut être très travailleur. Depuis son enfance, elle connaît ça.
Glaube ich schon auch ein gewisser Leistungsdruck.
Ralf Böllmann.
Weil ihre Eltern ja eben immer gesagt haben, wenn du Abitur machen willst, wenn du studieren willst, dann musst du besser sein als die anderen, sonst darfst du das als Pfarrerskind.
Je pense qu'il y avait une vraie pression de la performance qui pesait sur elle, puisque très tôt ses parents lui ont dit que si elle voulait faire des études, il fallait qu'elle soit meilleure que les autres, en tout cas qu'elle ait des très bons résultats, puisque en tant que fille de pasteur, ça ne lui était pas donné de faire des études. Ensuite, je pense que cette éthique de la performance protestante et prussienne, c'est quelque chose qu'elle a avec elle depuis le début. On n'a jamais vraiment su si elle était profondément et croyante, si elle avait la foi. Mais en tout cas, elle a cette éthique inscrite en elle. Et il va de soi que pour elle, le travail passe avant le plaisir.
Zum Kampf sind wir geboren. Auf, zum Kampf sind wir bereit.
À l'école, il y avait question les professions des parents. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Et elle n'osait pas dire Pfarrer, donc pasteur. Elle disait un peu moins clair Pfarrer. Et Pfarrer, c'est conducteur. Et Pfarrer, avec PF, c'est pasteur.
Ich bin traurig, weil ich wahrscheinlich nicht in unserer deutschen demokratischen Republik groß werden darf.
Seid bereit.
Immer bereit.
Elle a appris avec son père à séparer le privé du public. Alors ça, c'est une pratique que la plupart des gens en Allemagne de l'Est apprenaient dès l'école. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas à l'extérieur ce qui se dit à la maison. On ne raconte pas à l'extérieur quelle télévision on regarde, quelle visite on a reçue et quelle blague on a faite à table. Et pour autant, c'était manifestement encore plus marqué dans la famille Kastner, donc qui était le nom de jeune fille d'Angela Merkel, parce que le père leur a appris à avoir ce visage de joueur de poker, comme on dit en Allemagne, c'est-à-dire de ne laisser absolument rien paraître sur son visage, de faire presque même le niais à l'extérieur, de faire croire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas d'opinion, pas d'émotion.
Fais attention, tu es protestante, ne te fais pas remarquer, travaille le mieux possible, mais ne te fais pas remarquer.
Marion van Rettergen.
Et ça, elle l'a très bien intégré, mais elle était très bonne camarade. J'ai rencontré pas mal de ses camarades de classe à l'époque. Elle était rigolote, sympathique, pas du tout la bêcheuse qui bosse dans son coin, mais en revanche, excellente élève. Et là aussi, j'ai parlé avec certains de ses anciens professeurs qui disaient qu'elle était remarquable. Il y avait un de ses professeurs de maths qui disait « Même si elle n'était pas devenue chancelière, je me serais souvenu toute ma vie de cette élève qui avait une manière très particulière de faire des raisonnements mathématiques et souvent qui trouvait des solutions qui n'étaient pas celles des ouvrages académique. Elle utilisait des chemins de traverse et donc elle était très entêtée déjà pour toujours trouver les solutions aux problèmes.
Und jetzt eine halbe Drehung. Hopp. Oh, na ja. Alleine. Ja, darunter schon mal gut.
Elle dit qu'elle a très tardivement commencé à marcher ou à faire la gymnastique ou de bouger ou de faire du sport, ou elle a trouvé un mot qui est assez fort en allemand, ich bin ein Bewegungsidiot. Je suis un peu idiote en ce qui concerne le mouvement.
C'était une très bonne élève qui était toujours la meilleure et le système de ARDA encourageait ce type de compétition entre les élèves, puisqu'il y avait un système d'olympiade en RDA où on prenait le premier élève de chaque classe qui était en compétition contre les autres classes, contre l'autre lycée, et on montait comme ça jusqu'au niveau national, voire jusque chez les frères soviétiques, puisque Angela Merkel a participé à des olympiades à Moscou et elle était surtout très bonne en russe et elle était très bonne en mathématiques.
Ja. Ja, guten Tag, spreche ich mit Frau Erika Ben?
Ja.
Ja, guten Tag, wir kommen aus Frankreich, wir sind ein Radiosender und machen eine Reportage über Angela Merkel. Und Sie sind Ihre ehemalige Russischlehrerin und hätten Sie was dazu zu sagen, zu erzählen?
Kommen Sie mal wenigstens einen Moment hier hoch,
ja.
Dann können wir das besprechen. Ja?
Okay, danke.
Ich habe gerade Frankreich.
Guten Abend. Entschuldigung.
Bonjour. Je suis Erika Ben. J'étais professeur de russe et Angela Merkel war meine Schülerin.
Angela Merkel était mon élève parce qu'on avait un concours qui s'appelait les Olympiades. Moi, j'étais responsable de l'Olympiade de russe puisque j'étais professeur de russe. Et le russe était la première langue que les élèves apprenaient en RDA. C'était une obligation. Angela Merkel, née Kastner, a été découverte, si je puis dire, par une collègue à moi qui était professeure de russe aussi. Elle m'a dit qu'elle avait une élève très douée en russe qui avait toutes ses chances pour gagner l'Olympiade pour notre région de Templin. Donc moi, je suis allée assister au cours de cette collègue. Je me suis adressée à Angela Kastner après le cours et je lui ai proposé de poursuivre et de perfectionner son russe en vue de passer le concours.
Donc
les parents étaient très heureux que je parte avec leur fille et que je l'emmène pour les Olympiades en Russie. D'ailleurs, tous les ans, elle se présentait et elle remportait régulièrement des points pour la région de Templin. Donc elle recevait des prix qui pouvaient être des livres, parfois des petites sommes d'argent. C'était quelqu'un de très travailleur, de très sérieux. Elle avait déjà de l'ambition et était très disciplinée. Sa mère me racontait que quand elle revenait des cours avec moi, elle s'asseyait à son bureau et se remettait au travail.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein.
À 16 ans, je me disais, je veux être grande, je veux vaincre, je veux être heureuse, ne jamais mentir. À 16 ans, je me disais, je veux tout ou rien.
Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche.
Pour moi, il doit pleuvoir des roses rouges. Je veux voir des miracles. Le monde se transformer et garder ses soucis.
Und ihre Sorgen für sich behalten.
À l'âge de 16 ans, on arrive à un moment crucial. Deux options s'offrent aux élèves de RDA. La première option, c'est basculer dans le monde professionnel et donc on quitte le système scolaire. Et puis pour une ultra minorité d'élèves, ce qui correspond à peu près à 10% d'une classe d'âge, l'excellence des résultats scolaires couplée à un bon degré de loyauté vis-à-vis du régime, c'est-à-dire qu'en gros, au cours de sa scolarité, on ne s'est pas manifesté par des comportements transgressifs, de provocation par rapport aux enseignants ou par rapport à l'idéologie enseignée à l'école, eh bien, on peut accéder au lycée, ça veut dire en gros accéder ensuite à l'enseignement supérieur.
C'est peut-être quelque chose de difficile à imaginer, mais quand on n'était pas dans la norme, et les chrétiens pratiquants, qu'ils soient catholiques ou protestants, c'était surtout des protestants, étaient considérés par le régime de RDA comme marginaux, enfin comme non dans la norme, comme hostiles au marxisme-léninisme, et n'avaient tout simplement pas le droit de faire des études supérieures, sauf à faire des études de théologie. C'est la raison pour laquelle on va retrouver plus tard beaucoup de gens qui étaient critiques avec le régime, qui étaient pasteurs. Or là, c'est un peu le mystère. Angela Merkel, bien que fille de pasteur, a eu le droit de faire des études supérieures.
Angela Merkel und ihr Bruder
Angela
Merkel et son frère ont pu faire des études, mais parce qu'ils avaient des très bons résultats. Et ça n'a pas été le cas, par exemple, de leur petite sœur. Et elle a suivi des études de physiothérapeute. C'était pas rare à l'époque que les enfants de pasteurs choisissent des professions comme infirmier, infirmière, physiothérapeute.
Angela Merkel entre dans l'organisation des pionniers qui assure l'éducation politique et les activités extrascolaires des enfants de l'âge de 6 à 13 ans. Et ensuite, la jeunesse libre allemande, la FDJ, prend le relais pour les adolescents et les jeunes adultes entre 14 et 25 ans.
Emmanuel Droit.
Angela Merkel, elle va complètement s'intégrer dans cette trajectoire normale d'une élève de RDA. La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est qu'à l'âge de 14 ans, elle ne fait pas ce rituel socialiste d'entrée dans le monde des adultes qui est la cérémonie de la consécration, ce qu'on appelle en allemand la Jugendweihe.
Vorbereitungsstunden für das Jugendweihvorbereitungsjahr beginnt. Das Zeitalter des Sozialismus hat begonnen.
L'immense majorité des adolescents à l'âge de 14 ans font leur Jugendweihe. Alors ils la font en deux temps. D'une part, avec une cérémonie publique où ils prêtent solennellement serment de fidélité à la RDA et à l'idéologie communiste.
Verpflichtungen der Klasse 8a. Erstens, wir verpflichten uns regelmäßig und möglichst vollzählig an den Jugendstunden.
Ils reçoivent un livre, un bouquet de fleurs, il y a un discours qui se tient soit dans un théâtre, soit à la mairie et qui est tenu par un officiel du régime.
Ne pas faire sa Jugendweihe était un signe d'opposition au régime. Elle était baptisée, elle était protestante pratiquante, chrétienne, elle n'allait pas faire sa Jugendweihe.
Donc Angela Merkel, elle est pleinement intégrée dans le système scolaire, pleinement intégrée dans le système éducatif, mais elle ne fait pas la Jugendweihe, ce qui ne va pas d'ailleurs lui porter préjudice pour la suite de sa scolarité. Il y a encore pas mal de zones d'ombre sur la jeunesse d'Angela Merkel et sur son rapport à l'organisation de la jeunesse libre allemande. Alors Angela Merkel, ça on le sait, elle a pris en charge les activités culturelles lorsqu'elle était lycéenne. Alors on peut toujours dire que la culture, c'est un domaine qui est apolitique, mais en même temps, il faut jamais oublier qu'elle n'était pas obligée d'assurer cet engagement. Elle a fait un peu plus que la moyenne. Elle donne des gages au régime d'une certaine manière, en montrant que même si elle fait pas sa Jugendweihe, eh bien elle exerce des fonctions à la FDJ. Pareil, après les années lycée, elle continue à être active au sein de la FDJ, et c'est vrai qu'un certain nombre de témoignages laisse penser qu'elle a dirigé le département de la guide propre à l'université. Alors, on n'est plus dans le domaine prétendument apolitique des affaires culturelles. Si ça a vraiment été le cas, elle a été la courroie de transmission et une des actrices d'un certain nombre de campagnes de mobilisation idéologique que le régime déléguait à ses organisations de masse pour, évidemment, continuer de manière régulière à mobiliser la société.
Sie hat das mitgemacht, was man mitmachen musste, einerseits um studieren zu dürfen.
Elle faisait ce qu'on devait faire à l'époque pour pouvoir étudier et pour avoir une vie sociale. Elle a organisé par exemple des soirées sur le suicide ou sur les femmes en RDA. Donc organiser une soirée sur les femmes en RDA, c'était d'une certaine manière formuler une légère critique.
On est toujours autour de cette zone grise, autour de la notion de loyauté et d'accommodement. Et c'est dans cette zone, en fait, où Angela Merkel excelle, et en tout cas dans laquelle elle se trouve, jusqu'à la chute de la RDA à la fin des années 1980.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt,
sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt.
Dafür hat sie sich schon sehr früh interessiert.
Hans Böllmann.
Da gab es ja in Templin vor Ort eigentlich nichts. In der DDR gab es zwar eine sehr dichte Landschaft.
Il faut aussi préciser qu'elle avait des intérêts assez larges. Elle rendait souvent visite à sa grand-mère à Berlin. Et elle en profitait pour aller au théâtre et au musée. Donc elle s'intéressait à la culture et elle y avait accès puisque à Templin, il n'y avait pas grand-chose de ce point de vue-là. Et d'un autre côté, elle recevait aussi des paquets de son autre grand-mère qui vivait à Hambourg, par exemple des jeans ou d'autres objets venant de l'Ouest. Et ça a contribué aussi à la sortir du gris de la ville de Templin.
Elle était enviée, ça aussi, ses copains m'en ont parlé, des blue jeans d'Angela qui faisaient rêver tout le monde parce que en Allemagne de l'Est, on achetait des trucs un peu pourris, des imitations de tout. Parce qu'on passait son temps à imiter l'Ouest. On portait les cheveux longs comme les Beatles et compagnie. Enfin, donc on passait son temps à l'imiter tout en disant du mal. Ça, c'était un rapport complètement pervers et un peu hypocrite. Et donc, les jeans d'Angela avaient marqué ses copains parce qu'elle avait des vrais jeans américains, contrairement aux trucs fabriqués en tissu de mauvaise qualité des autres.
Hatten Sie Jeans?
Ja, klar. Naja, also ich hatte ja so,
cool.
Also ich hatte ja sowieso sehr viele.
J'ai reçu beaucoup de vêtements.
Fast alle Kleidung.
Presque tous mes vêtements par colis envoyés de l'Ouest.
Und ich hatte oder habe Cousinen, die nicht so viel.
J'ai une cousine qui est à peine plus jeune que moi, donc ma tante niveau mode était encore un peu dans le coup.
Bei der Großmutter war es immer nicht so sicher.
Ma grand-mère, elle, c'était une autre histoire.
Man hat dann immer mit so viel Hoffnung geschaut.
Si bien qu'on espérait à chaque fois que le contenu du prochain paquet ou nos cadeaux d'anniversaire soit, disons, mieux choisi. Sinon, il n'y avait plus qu'à discrètement les mettre de côté. À part les jeans que j'aimais, je me souviens du moment, parce que j'en avais entendu parler, où j'ai eu envie d'un chemisier jaune. J'ai insisté pour en avoir un, mais ma famille de l'Ouest m'a expliqué qu'on ne trouvait plus de chemisier jaune cette année-là, parce que c'était passé de mode. Ça a été une déception. Et j'ai bien peur que ce soit toujours vrai. Si on veut aujourd'hui un vêtement qui se vendait il y a 3 ans, on ne le trouve plus non plus.
Je pense que c'est aussi un cas où elle n'est pas si différente als ihre Generationsgenossinnen im Westen. Also wenn jemand in einer kleinen Stadt in der westdeutschen Provinz aufwächst.
Je pense que comme tous les gens de sa génération à l'Ouest et peut-être encore aujourd'hui, ton souhait était évidemment, venant d'une petite ville, de rejoindre la grande ville la plus proche dès qu'elle aurait obtenu le bac. C'est donc ce qu'elle a fait. Elle a obtenu une place à l'université de Leipzig, qui était une ville plus libre. Berlin-Est était une ville beaucoup plus surveillée, où il y avait beaucoup de Stasi, alors que Leipzig était bien plus libre. C'était aussi une ville qui organise une foire tous les ans, et donc il y avait plus de visites d'étrangers. Il y a même eu le Concorde une fois qui a atterri à Leipzig à l'occasion de la foire. Donc c'était une ville grande avec une vie culturelle intense, et je pense que on pouvait vivre beaucoup plus librement à Leipzig qu'ailleurs en RDA.
Mama, Papa und Onkel Hans können Twist nicht leiden. Warum jedoch soll ich beim Tanz jeden Twist vermeiden?
Angela Merkel, à l'époque Angela Kastner, a eu le droit de faire des études. Comme elle était très brillante, elle a choisi la matière qui correspondait le mieux, semble-t-il, à ses compétences. C'était une très grande matheuse, elle faisait des études de physique et de chimie.
Hélène Millard de la Croix.
On a pu dire après qu'elle a choisi ce qui était le moins compromettant d'un point de vue idéologique. Et qu'en choisissant des sciences dures, elle se mettait un petit peu à l'abri de la propagande et de la pression idéologique du régime.
Jetzt nicht ursprünglich sich in erster Linie für Naturwissenschaften interessiert hat. Wenn sie im Westen gewesen wäre, hat sie, glaube ich, auch mal gesagt, wäre sie wohl Lehrerin geworden, wahrscheinlich für Sprachen, Englisch, Russisch, vielleicht auch für so...
Effectivement, elle a souvent dit qu'elle n'aurait peut-être pas choisi les sciences si elle avait vécu à l'Ouest. Elle aurait peut-être préféré être professeure de langue, anglais, russe ou de littérature, toutes ces matières qui, à l'Est, étaient considérées comme idéologiques et avec lesquelles on ne pouvait pas dire la vérité. C'est donc peut-être une raison pour laquelle elle a choisi les sciences. Deux et deux font quatre et ça ne ment pas. Donc ce qui est sûr, c'est que toutes ses études en physique, elle y a mis beaucoup de discipline et de travail. C'était pas quelque chose qui était si facile pour elle. Elle a mis 8 ans à écrire sa thèse, elle s'est donné du mal.
Elle était destinée à la physique, elle avait commencé des études de physique, des recherches en physique, une thèse en physique, chimie, de quantique, dont l'intitulé fait 3 lignes et que je serais incapable de répéter. Mais elle était donc destinée à être une chercheuse, et une chercheuse plutôt, en tout cas compétente, reconnue dans la grande faculté des sciences d'Adlershof.
J'ai obtenu en 1986 mon doctorat avec mention très bien pour ma thèse intitulée « Étude du mécanisme des réactions de décomposition avec rupture de la liaison simple et calcul de leur constante de vitesse sur la base de la chimie quantique et des méthodes statistiques. »
Kennst du das Land mit seinen alten Eichen? Das Land von Einstein, von Karl Marx und Bach. Wo jede Antwort endet mit dem Fragezeichen. Wo ich ein Zimmer hab unterm Dach.
Wo sich so viele wegen früher oft noch schämen, wo mancher Vater eine Frage nicht versteht, wo ihre Kinder ihnen das nicht übel nehmen, weil seine Antwort im Geschichtsbuch steht.
Hier schafft es Schelmen, sei einmal gerne, hier könnt ich weinen, lehren einen Sinn. Hier hab ich meinen Teil von unserer Erde, der kann so werden, wie ich selber bin.
En RDA, il était presque recommandé de se marier tôt, dans la mesure où la RDA est, comme on le sait, un pays qui a perdu beaucoup de ses habitants parce que beaucoup se sont enfuis vers l'Ouest. Et à partir du moment où on faisait beaucoup travailler les femmes, puisqu'on manquait aussi de bras, il fallait qu'en même temps elles aient des enfants. Donc un des éléments de la politique nataliste du régime de la RDA était de donner des avantages importants aux familles, et de préférence si elles avaient des enfants. Et donc, si on voulait avoir un appartement, si l'on était un jeune couple marié, on était prioritaire. Et il y a donc une habitude en RDA à se marier relativement vite. Et ainsi, Angela Merkel s'est mariée en 77, elle avait 23 ans, avec donc un étudiant, Ulrich Merkel, et donc elle a gardé son nom. Et ils ont eu tout de suite un logement.
Und das war dann aber relativ schnell klar, dass die beiden dann doch nicht so gut miteinander zurechtkamen.
Lui, c'était un homme très calme, venant du sud de la RDA. Il aimait pas trop la compagnie, contrairement à elle. Et lorsqu'ils ont déménagé ensemble à Berlin, assez rapidement, il y a eu un soir où Angela Merkel est allée sonner chez une amie et lui a dit « Je dois dormir chez toi ce soir, ça va plus ». Ça s'est passé assez simplement, il n'y a pas eu de dispute. D'ailleurs, c'était considéré de manière plus rationnelle à l'Est qu'à l'Ouest. Et on se mariait aussi plus rapidement, ce qui a peut-être vexé son premier mari, qui a sous-entendu qu'il s'était marié si vite pour avoir un appartement.
Donc, si l'on veut, le premier mariage d'Angela Merkel, d'Angela Kastner, qui est devenue Angela Merkel et qui a gardé ce nom Merkel, est beaucoup lié aux circonstances de sa vie et au lieu où elle a grandi. Puisque une fois quand on était en RDA marié avec un logement, eh bien on avait aussi plus facilement un travail, des aides, etc. Donc c'est une forme de d'opportunité qui s'est présentée pour elle.
Ja, sie hat den Namen behalten auch nach der Scheidung.
Effectivement, elle a gardé le nom de Merkel même après son divorce. Ça tient certainement au fait que dans le monde scientifique, elle était déjà connue sous ce nom-là et qu'elle avait écrit et signé des articles sous ce nom-là. C'est assez commun, même chez les journalistes, de garder le nom avec lequel on a commencé sa carrière.
En 1978, elle a 24 ans, elle arrive à Berlin-Est et elle étudie, enfin elle prépare sa thèse de physique chimie quantique à la faculté des sciences de Adlershof. C'est vrai que là c'était le monde de la ville, c'était elle découvrait vraiment ce que c'était que le totalitarisme, mais là encore, dans son laboratoire de recherche, elle était dans une petite équipe, il y avait des camarades, on se rejoignait, j'ai parlé avec ses camarades de l'époque, ils avaient fait leur monde à eux un peu, ils allaient chez les uns chez les autres, ils avaient compris qu'on n'allait pas au restaurant parce qu'il y avait toujours des oreilles pour vous écouter, donc on se réunissait, on faisait la fête chez les uns, chez les autres, et donc d'une manière ou d'une autre, on vivait bien. Son camarade me disait quand elle a eu son doctorat, on a fait une fête, c'était très sympa, on avait des moments de bonheur.
Pendant mes études, on a souvent organisé des fêtes. On devait respecter la règle des 60-40, mais l'ambiance était certainement la même qu'à l'Ouest.
60% Ostmusik, 40% Westmusik.
Je ne parlais pas de la proportion d'alcool par rapport à l'eau.
Wurde verlangt 60.
Et nous était imposé de jouer seulement 60% de musique de l'Est.
Et
s'il y avait bien une liste de chansons autorisées, il n'était pas dit combien de minutes chaque titre devait durer. Donc on avait une certaine marge de manœuvre, même s'il y avait toujours quelqu'un dans la salle pour nous surveiller. On organisait nous-mêmes ces fêtes dans le bâtiment de physique de l'université. C'est pour ça que je m'y connais. Et quand on exagérait en jouant par exemple 30 secondes d'un morceau de l'Est et 75 secondes d'une chanson de l'Ouest, alors quelqu'un venait et nous disait de tout arrêter. J'étais derrière le bar et je servais toujours un cocktail à base de vodka, jus de cerise et eau gazeuse.
Les matins, elle fait le trajet de Prenzlauer Berg, un quartier de Berlin, à l'Université des sciences de Adlershof. Et le métro longe le mur par moments et à certains endroits, elle peut voir par-dessus le mur la ville de Berlin-Ouest. Et comme souvent les moments de frontière étaient des espaces de publicité et de propagande des deux côtés. C'est-à-dire que Berlin-Ouest affichait en direction des Berlinois de l'Est ce qu'il y avait de plus clinquant, des enseignes Coca-Cola, etc., pour montrer à quel point ils étaient dans l'opulence et pour essayer de faire envie et de faire comprendre aux gens que leur régime était le meilleur. Et côté Berlin-Est aussi, on essayait de montrer des façades les plus belles aux Berlinois de l'Ouest qui pouvaient les voir. Donc cet espace de frontière était un lieu fabriqué pour le désir de l'autre. Et Angela Merkel, donc, elle avait une psychologie, là aussi, et un intellect complexe, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, elle voyait bien ce dont elle était privée. Les États-Unis faisaient partie d'un rêve et d'un idéal, et elle s'était toujours dit, quand elle était jeune, qu'elle irait aux États-Unis visiter les montagnes rocheuses quand elle serait à la retraite, puisque les retraités étaient autorisés par le régime d'Allemagne de l'Est, puisqu'ils étaient considérés comme inoffensifs, trop vieux pour être subversifs. Ils étaient autorisés à sortir, à franchir les frontières et à aller voyager. Et elle s'était dit, voilà, quand je serai vieille et retraitée, j'irai visiter l'Amérique.
Le mur de Berlin a limité mes possibilités. Cependant, il y a une chose que ce mur n'a pas pu faire pendant toutes ces années. Il ne pouvait pas imposer de limites à mes pensées intérieures.
Meine Persönlichkeit, meine Fantasie, meine Sehnsüchte. All das konnten Verbote und Zwang nicht begrenzen.
Ma personnalité, mon imagination, mes rêves et mes désirs, les interdictions ou la coercition ne pouvaient rien limiter de tout cela.
Dann kam das Jahr 1989.
Puis vint 1989.
Überall in Europa setzte der gemeinsame Wille zur Freiheit unglaubliche Kräfte frei.
Un désir commun de liberté dans toute l'Europe a libéré des forces incroyables.
In Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei und auch in der DDR wagten sich Hunderttausende auf die Straße.
En Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Allemagne de l'Est, des centaines de milliers de personnes ont osé descendre dans la rue.
Die Menschen demonstrierten und brachten die Mauer zu Fall.
Les gens ont manifesté et ont fait tomber le mur.
Was viele Menschen nicht für möglich gehalten hatten, auch ich nicht, es wurde Realität.
Ce que beaucoup de gens, moi-même y compris, n'aurait pas cru possible est devenu réalité.
Da, wo früher eine dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür.
Là où il n'y avait qu'un sombre mur, une porte s'est soudain ouverte.
Auch für mich war der Moment gekommen, hindurchzutreten.
Pour moi aussi, le moment était venu de franchir cette porte.
Ich musste nicht mehr im letzten Moment vor der Freiheit abbiegen.
Je n'avais plus à me détourner de la liberté à la dernière minute.
Ich konnte diese Grenze überschreiten und ins Offene gehen.
J'ai pu franchir cette frontière et m'aventurer dans les grands espaces.
Wollen wir das mal zusammen singen?
Wunder geschehen, ich hab's gesehen.
Des miracles se produisent. J'en ai vu. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Des miracles se produisent. J'y étais. On ne doit pas seulement croire ce qu'on voit.
C'était Angela Merkel, l'inattendu. Premier épisode, Derrière le mur. Avec Erika Ben, Ralph Bollmann, Jacqueline Boysen, Emmanuel Droit, Rainer Eppelmann, Eva Guigaud-Patzent, Hélène Millard de la Croix, Marion Van Rettagen. Texte et voix off, Katia Flouest, Anna Fournier, Gabriel Pennelier. Archivina, Clary Monac. Traduction, Katia Flouest. Prise de son, Delphine Baudet. Mixage, Guillaume Ledu. Une émission de Ludovic Piétenu, réalisée par Thomas Duterte.